BD Culte, rendez-vous pour explorer une planche iconique du 9e art. Alors ce mois-ci, nous allons nous pencher sur Corto Maltese d'Hugo Pratt, qui survit à la disparition de son auteur avec une double actualité, un hors-série des arts dessinés sur Hugo Pratt et bien entendu le nouvel album repris par Ruben Pelgero et Juan Diaz-Canales, Nocturne Berlinois, paru en fin 2022 chez Casterman, quatrième suite de Corto Maltese. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est dans cette suite, on a la page 50, la place de l'horloge à Prague, et l'idée de mettre Corto Maltese sur une place astronomique et astrologique renvoie forcément à la culture d'Hugo Pratt et à la planche mythique qui débutait Corto Maltese en Sibérie que nous allons explorer aujourd'hui. Alors, nous rappeler effectivement la chronologie des albums de Corto Maltese. On a 12 albums, 29 histoires, 21 de 20 pages qui paraîtront dans Pif Gadget. Corto Maltese en Sibérie, dont nous allons évoquer les deux premières planches. Cette histoire, c'est une histoire complète. C'est la sixième histoire, le sixième album, qui a été publié dans Linus et dans le mensuel à suivre, alors en 78, dès le numéro 3. Finalement, on est vraiment dans le roman graphique qui a été initié en 75 par la Ballade de la mer salée, première apparition de Corto Maltese. Et le titre de l'album publié donc à partir de 78, le titre original en italien, c'était La cour secrète dite des arcanes, en écho à la première planche. Alors, en France, on va avoir le titre Corto Maltese en Sibérie, mais cette histoire de cour secrète est beaucoup plus mystique et donne une ampleur assez étonnante à cette histoire qui n'est pas que de l'histoire, justement. Alors, le pitch, c'est on est en Asie, en 1918. Corto Maltese et Rasputin, c'est son âme damnée, son alter ego. Il se lance dans une chasse au trésor pour le compte d'une société secrète chinoise. Il s'agit d'un train blindé, rempli de l'or, des révolutionnaires russes, enfin de la famille des tsars russes, et les révolutionnaires le convoitent. Alors, c'est convoité aussi par les seigneurs de la guerre, les Russes blancs, et plein de gens qui essaient de récupérer ce trésor. Et Hugo Pratt a été très inspiré par la biographie du baron Ungern Sternberg, qui était un chevalier teutonique et à la fois inspiré par le chamanisme et le bouddhisme. Voilà, donc on va retrouver la confrontation de Corto Maltese avec tout un tas de personnages assez étonnants. Alors, nous rappeler peut-être qui est Hugo Pratt. Hugo Pratt, c'est un dessinateur vraiment phare de la bande dessinée. Il est d'origine italienne, il est séfarade, c'est un fin lettré, il est poète, conteur. Il passe une partie de sa jeunesse en Abyssinie avec son père, et son père est plutôt du côté des fascistes. Et Hugo Pratt va être un des premiers enfants enrôlés dans la guerre en Éthiopie. Par la suite, il va voyager dans le monde entier, c'est un véritable globe-trotteur qui va passer de l'Argentine à Londres, Venise, la Suisse. Il est membre d'une loge maçonnique à Venise. Et dès l'âge de 17 ans, il commence à dessiner et avec des amis, il crée une revue qui s'appelle L'As de Pique. Et on va le définir comme un romancier qui dessine. Il va même parler de la bande dessinée comme étant une littérature dessinée. Il va travailler avec des scénaristes comme Alberto Ongaro pour effectivement L'As de Pique et avec Hector Osterheld pour Sergent Kirk, qui est un indien, quelqu'un qui travaille avec les indiens et qui est pro-indien. C'est très beau cette histoire qui va influencer Giraud dans Blueberry. Et Hugo Pratt va même apparaître comme personnage de bande dessinée chez Manara. Et bien entendu, son succès va être permis par la publication dans Pif Gadget et dans À Suivre. Voilà. Alors, nous allons écouter les deux planches qui introduisent les aventures de Corto Maltese en Sibérie.
Il y a à Venise trois lieux magiques et cachés. L'un dans la rue de l'amour, de mes amis, le deuxième près du pont des merveilles et le troisième dans la calle des Marani, près de San Geremia, dans le vieux ghetto. Quand les Vénitiens sont fatigués des autorités, ils vont dans ces lieux secrets et, ouvrant les portes au fond de ces cours, ils s'en vont pour toucher vers des pays merveilleux et vers d'autres histoires.
Corto, que fais-tu dehors ?
Je pense que je devrais me décider à partir. Venise me rend paresseux.
Oh oui, Venise est faite pour cela. Veux-tu un petit verre de Rosolio ?
Rosolio ? Je ne savais pas que cela existait encore. Mais dis-moi, Bouche Dorée, depuis quand habites-tu Venise ?
Je suis venue en 1300, avec le kabbaliste Mancello Guideo. Eh oui, nous étions alors des amis de Dante. Mais il suffit d'ouvrir cette porte au fond pour partir ou revenir. Dans le temps, comme dans la fable.
Ce serait bon de vivre dans une fable.
Oh oui, mais toi, tu vis continuellement une fable et tu t'en aperçois plus. Lorsqu'un adulte entre dans le monde des fables, il ne peut plus en sortir. Le savais-tu ?
Peut-être sommes-nous en retard. Aujourd'hui, c'est le 34 décembre et le premier jour de l'année n'est pas encore arrivé.
Oh oui, mais Noël est arrivé le 27 à Venise. Les années sont toujours un peu plus longues.
Que faites-vous encore d'abord ? Des voleurs pour les punir ensuite. Je n'ai jamais pu lire ce livre.
Laisse tomber, Corto. Tu n'en aurais pas le temps. Ton horoscope dit que tu vas faire un long voyage aventureux. Ah oui, mais tu dors ?
Il y a plusieurs façons de commencer à raconter une histoire. Celle de Corto Maltese et du baron Roman von Ungern-Sternberg, qui du reste était fou, peut commencer par une ligne brisée qui veut dire non dans le jeu du linking, le livre des mutations. Le 9, en vertu du changement, devient une ligne entièrement mobile. Une ligne forte se change en ligne faible, et une ligne faible se change en ligne forte. Et c'est ainsi que nous obtenons le signe de... Je ne m'en souviens plus. Je deviens vieille. Je ne me souviens pas. Ah oui. Le signe est Quimi, la jeune fille à marier. Ce n'est pas un signe heureux. La jeune fille à marier dit « Les nouveaux exploits conduisent au malheur. Rien de propice. »
Hé, hey, Corto Maltese, tu dors ?
Non, non, je pensais à Venise et à Bouche Dorée. Je te prie de m'excuser.
Voilà, alors maintenant, nous allons faire un petit commentaire sur ces deux planches qui sont quand même très extraordinaires puisque on commence par un souvenir biographique. Hein. Il y a à Venise des lieux magiques. Donc, on a un écho à la mère d'Hugo Pratt et au personnage de Bouche Dorée qui se rejoignent. Quelque chose que vous n'avez pas entendu, c'est on a une marelle que l'on voit au mur sur la première case. Et cette marelle, elle indique la terre, mais la terre est à la place de l'enfer. Il n'y a pas de ciel, mais on a effectivement les sept chiffres clés, qui est un site symbolique. 7, ça indique la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Et les aventures de Corto sont des cycles qui passent par des portes. Voilà. On a une porte qui est ouverte sur un puits, un arbre. Alors l'arbre peut évoquer l'arbre de vie, l'arbre des séphirotes, parce que Pratt était très initié à la cabale via sa grand-mère. Et on a Bouche Dorée qui va tirer à la fin, sur l'avant-dernière case, des cartes. Alors nous avons des cartes de tarot qui apparaissent. La maman de Pratt était une taromancienne aussi, d'après ce qu'il raconte. Voilà. On a aussi un horoscope qui apparaît, hein, qui va apparaître aussi encore plus dans les mémoires de Corto Maltese, où Hugo Pratt va parler du signe de Corto, qui était du signe des Gémeaux. Et on a aussi une référence à l'île d'Utopie, c'est-à-dire que Corto Maltese lit Thomas More, mais il n'arrive jamais à comprendre ce que veut dire Thomas More. C'est une métaphore sur le fait que Corto Maltese est un utopiste qui n'arrive pas à trouver le paradis sur Terre et qui est toujours en quête de trésors. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre la planche 1 et la planche 2, on va changer d'espace. On va passer de Venise à Hong Kong, et à Hong Kong, c'est la maison de Corto Maltese. Mais on va rentrer dans la maison de Corto Maltese par Longue Vie, qui peint et qui discute sur des formes du Yiking. Donc, vous voyez, c'est vrai que la première partie, première planche qu'on a écoutée, c'est plus un rêve de Corto Maltese qui passe à Venise et qui se retrouve chez lui. Et donc chez lui, il est face à Longue Vie et Longue Vie peint. Alors on a effectivement une leçon de calligraphie, hein, c'est-à-dire que là, les personnages disparaissent pour donner des formes, puisque Pratt était très intéressé sur la question du dessin, hein, la question du signe, du vide et du plein. Voilà. Et on voit vraiment cette référence avec à la fois une signification, hein, c'est-à-dire effectivement, Longue Vie parle du signe. La jeune fille à marier, ce n'est pas un signe heureux, dit-il. Alors, qu'est-ce que ça peut dire quand on a lu l'album et quand on lit les affaires de Corto Maltese ? On voit bien que la jeune fille à marier, ça serait peut-être la quête de l'âme sœur chez Corto Maltese. Il n'arrive jamais à se fixer, à trouver son âme sœur, donc il ne se marie jamais. Et il n'arrive jamais vraiment à trouver les trésors qu'il cherche. Et donc, cette histoire de jeune fille à marier, on en aura une à la fin, c'est Shanghai Lee. Et vraiment, on a l'impression qu'à travers le Yiking, et c'était le sens de cet art, c'était l'idée de comprendre ce qui se trame dans la vie. Et Corto Maltese, effectivement, il est là, mais à la fin, il n'est pas là. Donc, il s'incarne, il voyage par le rêve. Voilà, donc cette case, ces deux planches, et ces cases un peu métaphoriques, sont un moyen de rentrer dans l'univers du Goprat, qui est vraiment l'univers de la mystique et du songe. Et donc, toute histoire, même basée sur des fonds historiques, sera agie par des forces souterraines, qui sont les forces du destin. Voilà. Alors, le personnage de Corto Maltese, lui, est un personnage, donc vous l'avez compris, très mystérieux. C'est un personnage qui est secondaire, qui apparaît crucifié sur l'eau, à la planche 5 de la balade de la mer salée. L'héroïne, c'était Pandora, logiquement. Et Corto Maltese va s'imposer petit à petit dans Pif Gadget comme un héros dans des petites histoires de 20 pages. Alors, il est inspiré par un pilleur de bateau américain qui s'appelait Billy Hayes. Il est aussi inspiré par le personnage de John Wayne, parce qu'en fait, on va se rendre compte que Hugo Pratt est très cinéphile. Donc, il y a un film qui est peu connu, qui s'appelle « Le réveil de la sorcière rouge » de Ludwig en 48, où on voit John Wayne crucifié sur une barque dans l'eau, comme Corto Maltese, dans le premier épisode. Corto Maltese a beaucoup à voir avec le personnage de marin joué par Peter O'Toole dans Lord Jim, d'après Conrad, de Richard Brooks. Et il a aussi, sur le plan visuel, beaucoup à voir à Burt Lancaster, qui a joué le roi des îles de Byron Haskins en 54. Et Hugo Pratt, dans les différents entretiens qu'il a eus, notamment dans le Figaro littéraire en 89, nous laisse peut-être entrevoir que Corto Maltese serait peut-être réel. Il définit Corto Maltese comme un vieux compagnon de route un peu trop rêveur. Alors, pour dire qu'est-ce que veut dire Corto Maltese ? Corto, en espagnol, ça veut dire vif. Maltese, c'est celui qui est né à Malte. Donc, on a une date de naissance de Corto Maltese qui serait le 10 juillet 1887. Corto Maltese, on peut le définir comme un collectionneur de mythes. C'est un taiseux. C'est quelqu'un qui a l'art de ne pas trop parler. Il a quand même une biographie. Son père était marin britannique dans les Cornouailles. Sa mère était gitane. Elle est née à Séville. Elle était cartomancienne. Et on peut dire que ce personnage, c'est une femme de marin, pirate. Il est au-dessus des lois. Au-dessus, d'ailleurs, on le voit dans la planche, dans la deuxième planche, le yin et le yang. C'est-à-dire que Corto Maltese apparaît comme au-delà de la dualité. À un moment donné, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il devient après 1925, dernière aventure dans Mu, où le personnage est confronté au mythe de la civilisation disparue. Eh bien, il a une postériorité, on voit dans différents livres qu'il aurait visité Harar. Dans Corto Magazine le 5, il y a des aquarelles de Goprat qui montrent Corto Maltese, mais que ce n'est pas vraiment une aventure. Dans les Scorpions du désert, un personnage évoque Corto Maltese qui aurait été enrôlé dans la guerre civile espagnole de 1936. Dans une lettre, dans la version originale de la balade de la mer salée, mais qui n'est plus reprise dans les albums actuels, il est évoqué que Corto Maltese vieillit avec Pandora et Tarao, donc c'est devenu un vieux monsieur. Et à un moment donné, dans un storyboard, on le voit, comme Hugo Pratt à la fin de sa vie, retourner dans le Pacifique et revisiter les principaux personnages de ses aventures, souvent inspirés cette fois-ci de personnages réels. Voilà. Donc Corto Maltese n'a pas de date de mort officielle. On ne sait pas s'il est toujours vivant. Est-ce qu'il a vraiment existé ? Cela restera un mystère. Voilà. Le personnage qui rencontre et qui initie la balade en Sibérie, là, c'est Bouche Dorée. Alors, Bouche Dorée, c'est elle, la tireuse de cartes. On la voit dans la planche 1, là, en tant qu'elle trône sur un jeu de cartes. Donc, c'est une prêtresse noire. Elle est atemporelle. On va la retrouver partout sur la route de Corto, de Venise au Brésil. Elle est initiée à la macumba brésilienne, au voodoo haïtien, au tarot. On le voit à la fin de la planche où elle tire les cartes. Elle dit d'ailleurs dans le dialogue d'Hugo Pratt qu'elle était amie de Dante et du kabbaliste Guidéo. Donc du coup, ça nous renvoie au Moyen-Âge, vous voyez. Et en tout cas, elle manie, puisque Hugo Pratt est très, très féru de Jung, l'archétype à la fois du mentor et l'archétype du féminin sacré. Et en tout cas, c'est évident que c'est une figure maternelle qui, comme au début de Corto en Sibérie, va guider Corto à travers les cartes et les étoiles. Le personnage de longue vie qui apparaît sur la planche numéro 2, c'est un personnage qui est esquissé, qui est assez mystérieux. Donc c'est un Chinois qui est membre de la Triade, une société secrète, qui va être un protagoniste de la quête de l'or russe. Et en tout cas, longue vie, comme Bouche Dorée, pratique un art divinatoire qui est le Yi Qing. Et c'est à partir du Yi Qing qu'il fait cette prophétie sur la jeune fille à marier qui est, on l'a vu peut-être, programmatique des échecs de Corto Maltese. Et en tout cas, on voit à travers ce personnage que Hugo Pratt était très renseigné sur le jeu des sociétés secrètes. Mais on retrouve ça chez Hergé dans le Lotus Bleu aussi. Alors, les influences graphiques de notre ami Hugo Pratt, c'est vraiment les maîtres du noir et blanc, puisque les premières histoires étaient vraiment publiées en noir et blanc. Donc, il est vraiment influencé par des gens comme Breccia, Battaglia, et sa lecture d'enfance, c'est Milton Caniff, Terry et les pirates. Ça, c'est évident. Pour un côté un peu plus burlesque, il y a le style Will Eisner avec le spirit. Voilà. Et Pratt va aussi avoir un atelier, c'est-à-dire il va se faire aider pour les décors et notamment les trains. Il y a beaucoup de trains dans l'histoire de Corto Maltese. Il n'aimait pas dessiner les trains, donc c'est Fuga qui va dessiner les trains. Et Lele Vianello, qui est toujours vivant et qui dédicace toujours des albums chez l'édition Mosquito, Lele Vianello va l'aider aussi dans les décors. Et Lele Vianello, c'est intéressant de voir comment il a été influencé dans le style de Pratt, et qu'il continue dans ses albums. Alors, le style graphique de Pratt, quel est-il ? Ce qui est intéressant, c'est cette tentation d'une mutation vers l'éthéré, c'est-à-dire de partir de la matière pour retourner sur la puissance du pinceau et du signe. C'est pour ça que ces deux planches, elles sont vraiment étonnantes, puisque la planche 1, on est dans un style graphique, un gaufrier classique, et la planche 2, on éclate la forme classique pour partir sur les traits du Viking. Donc, les noirs de Pratt sont toujours des noirs très denses, et on peut voir dans les différentes histoires que les visages des personnages vont se modifier selon leurs états d'âme. Les onomatopées sont toujours très sonores, les visions sont parfois fragmentaires. Dans la planche 2, on comprend que nous sommes en Chine à la fin de la planche. Donc on a vraiment un focus sur ce que fait Longue Vie quand il dessine, et on aperçoit Longue Vie après. Il va retravailler la même chose quand il va fragmenter des danseurs de tango argentin. Dès 79, Pratt va passer à la couleur. Il va travailler notamment, alors pour le succès, hein, une BD qui en noir et blanc a moins de succès qu'une BD en couleur, mais la plupart de ses femmes vont devenir ses coloristes. Et il va vraiment se poser la question de donner du sens. Et à la fin de sa vie, il va faire des aquarelles en peinture directe avec un pinceau souple, en écho aux albums des années 80, avec beaucoup de mouettes qui se promènent. Donc dès l'expo du Grand Palais en 86, on a les aquarelles de Pratt qui aujourd'hui sont répertoriées et publiées dans trois magnifiques artbooks qui s'appellent les Périples d'Hugo Pratt. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les deux planches qu'on a évoquées renvoient au chemin du rêve. Alors, ce chemin de rêve a été exploré par une exposition à la Fondation Follon en 2019, parce que le début qu'on a écouté de cet album, donc qui s'appelle Corto en Sibérie, la cour secrète des arcanes, eh bien ce début, c'est la fin de l'album suivant, qui s'appelle Fable de Venise. Donc en fait, les histoires se répondent, et on fait des sauts, un voyage dans le temps. Et on voit effectivement que les lieux sont illusoires, et qu'on peut passer d'un lieu à l'autre par le rêve. Et donc du coup, on a l'idée qui sera totalement parachevée dans les derniers albums de la série, à savoir les Helvétiques et Mu, que le rêve est une forme de voie initiatique. Alors bien entendu, dans toute la série, dont Corto Maltese en Sibérie va ancrer le personnage à la fois dans l'histoire et dans le rêve, eh bien on a, vous avez compris, à travers la planche 1, à la cour secrète des arcanes, des références à l'ésotérisme, à la gnose, à la cabale, le celtisme. Les personnages gnostiques de Simon le Mage, Mani, Hypatie et Valentin sont convoqués par Hugo Pratt à plusieurs reprises dans ses albums. Aussi la mythologie, les personnages d'Ulysse, les personnages de Gilgamesh. Tout un élément fantastique, Marie Shelley, Gustave Meyrinck, et aussi toutes les références poétiques, à savoir Kipling, Rimbaud et Baffo aussi. Donc tous ces poètes seront illustrés aussi par Hugo Pratt, et on a une réédition de ce travail graphique au Tripode aujourd'hui. Les références cinématographiques ne sont pas moindres. On voit que, au-delà des références que j'ai faites pour le personnage de Corto Maltese, une référence à l'expressionnisme allemand avec Murnau, le cinéma d'aventure, les révoltés du Bounty. C'est évident que Pratt a une vision cinématographique qu'il retranscrit dans sa bande dessinée. Il adore aussi les cartes maritimes. On retrouve dans les éditions couleurs de Casterman les cartes sur lesquelles Pratt s'est inspiré pour tous les voyages de Corto Maltese dans le monde entier. Et bien entendu, l'idée de roman d'aventure, donc Robert Stevenson, Joseph Conrad, sont les deux maîtres à penser de Pratt pour l'idée de marin, de quêteur, de trésor et d'absolu. Et l'île au trésor, d'ailleurs, a été un des premiers cadeaux que son père lui a fait, et son père l'avait invité à trouver son île au trésor. Voilà. Donc, effectivement, à travers tous ses livres, Pratt va faire l'apologie du multiculturalisme, il va rejeter le colonialisme, donc on ne peut pas dire que Pratt est facho et pro-militaire. Il a vécu dans un environnement, comme Hergé d'ailleurs, un petit peu facho, mais il s'en est émancipé. Et Pratt nous donne à voir la complexité du monde, qui est vraiment basée sur la planche 2, c'est-à-dire la non-dualité, la sortie du yin et du yang. Et Pratt dit souvent « moi j'avais des amis des deux côtés ». Et ce qui est intéressant dans Corto Maltese en Sibérie, c'est que Corto va confronter tous les partisans de la quête entre les Russes blancs, les révolutionnaires. Et en fait, Corto va être dans aucun côté. Corto, il va juste essayer d'avoir le culte de l'amitié et le culte des morts, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui meurent soient enterrés, respectés. Et il va aussi peut-être être attiré par certaines femmes, mais malheureusement, l'alchimie n'aura pas lieu. En tout cas, à travers cette bande dessinée et les suivantes, il est clair que Pratt contribue à revivifier un certain nombre de mythes importants de notre civilisation. Alors ces mythes, il va les trouver dans le monde entier, puisqu'en fait, à travers l'histoire de Pratt et de Corto Maltese, on voyage sur les 5 continents. Alors, on voyage en Afrique, en Europe, en Irlande, en Amérique du Nord et du Sud, et sur la fin, dans le Pacifique, en Patagonie, et on finit sur l'île de Pâques. Donc, c'est quand même un beau périple que nous invite Hugo Pratt. Et ce périple, il a toujours en sous-texte la quête de trésors mystiques. Alors, quelques éléments. Là, on avait un trésor qui est matériel, c'est de l'argent qui finance une révolution dans Corto Maltese en Sibérie. Par contre, on va avoir là, dans la jeunesse, le trésor des mines du roi Salomon. Dans les Helvétiques, le Graal. Dans Fable de Venise, la clavicule de Salomon. On va avoir aussi l'or de Monténégro, d'Alexandre, et la cité perdue de Mu. Donc on peut dire que finalement, Corto Maltese, c'est un peu l'écho de Jason qui recherche la toison d'or, mythe grec bien connu. Quelle est la postérité de Corto Maltese? Alors, vous l'avez compris, cette postérité, il y a une actualité, puisqu'on a un nouvel album. Et cet nouvel album, fait donc par Ruben Pellegero au dessin, et Pellegero a fait Dieter Lempen, qui était un détective qui ressemblait un peu à un Corto, et Jan Duan Canales lui fait le scénario de Black Sad. Donc, vraiment, ces deux-là donnent une espèce de fausse suite, puisqu'en fait, cette fausse suite, elle s'intercale dans les épisodes écrits par Pratt de 1918 à 1925. Il y a même juste une préquelle. Ils essaient d'expliquer comment Corto arrive sur son radeau. Et cette suite, elle est, de l'avis de la plupart des critiques, très réussie. Et moi, je partage cet avis. C'est-à-dire, vraiment, on a quelque chose qui n'est pas que commercial, qui donne du sens et qui est cohérent. Par contre, en 2021, Bastien Vivès et Martin Kénéen réactualisent Corto Maltese, et là, c'est beaucoup plus discutable, on va dire. Il existe aussi un film d'animation qui a été fait par Pascal Morelli en 2002, et là, c'est assez réussi. On a effectivement 4 moyens-métrages, 22 épisodes, qui correspondent à la partie des petites choses qui étaient publiées dans Pif Gadget, et là, c'est très agréable à regarder, avec une belle musique, donc vraiment, là, un hommage réussi. Et actuellement, une nouvelle actualité, c'est que Studio Canal produirait une série télé. Et Frank Miller, le grand dessinateur, bon, avec quelques dérives un petit peu dans ses idées, serait à la barre, donc à voir ce que ça va donner. Donc vous voyez, Corto Maltese n'est pas prêt de nous quitter. Alors, pour dire finalement qu'est-ce que Corto Maltese et pourquoi il est important aujourd'hui de relire Corto Maltese dans notre monde désabusé. Corto Maltese, pour résumer, c'est un idéal chevaleresque. On peut dire que Corto et Pratt, qui sont en miroir, sont quelque part des chercheurs de vérité, avec l'idée que le chemin de recherche est peut-être plus important que de trouver la vérité, puisqu'en fait, on voit bien que Corto n'arrive pas à trouver son âme sœur et n'arrive rarement à trouver un trésor. Et Pratt l'avait reconnu, il a illustré pour la presse italienne Ulysse. On peut dire que Cortot, c'est une espèce d'avatar de l'Ulysse d'Homère. Et que Hugo Pratt, à travers Cortot Maltese, interroge à la fois notre capacité à être libre dans un monde aux mains de sociétés secrètes ou de pouvoirs occultes, et notre situation face à la mort. Puisque dans les Helvétiques, Cortot Maltese va boire l'eau de la jouvence dans le Graal, et peut-être que Cortot Maltese est immortel, mais peut-être il n'est qu'immortel que dans le monde des rêves. En tout cas, ce qui est important, c'est que Hugo Pratt nous a offert un passeport vers son île au trésor que son papa l'avait invité à chercher en lui offrant le roman de Stevenson. Hein? Donc un passage, et on le voit très bien dans les deux planches commentées, vers ce qu'on appelle le monde imaginal des rêves. Et donc cet appel à trouver une nouvelle utopie qu'Hugo Pratt nous fait, c'est un appel à réenchanter le monde et à trouver une utopie intérieure que symbolise Cortot Maltese. Voilà, donc longue vie à Cortot Maltese.